Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel avec vous cette semaine pour parler d'apparence physique. Plus précisément, on parle de la beauté physique. Et on peut se dire, ah mon Dieu, que c'est superficiel que de parler de beauté physique, parce qu'on le sait, hein, c'est la beauté intérieure qui compte. Donc on va se le dire, là, le fameux « c'est la beauté intérieure qui compte », c'est plus beau que vrai, souvent. Je pense sincèrement que pour être bien dans sa peau, ou encore pour pouvoir choisir un partenaire de vie, un chum, un conjoint, appelons-le comme on veut, il faut le moindrement trouver de la beauté quelque part, tu sais. Par contre, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et ça, c'est une de mes phrases préférées parce que c'est tellement vrai. La beauté est partout, puis en même temps, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il reste qu'il semble y avoir des standards de beauté à travers les époques, à travers les cultures même. Et oui, il y a certaines personnes qui ont des traits qui sont plus généralement qualifiés de beaux comparativement à d'autres, comme un visage symétrique, par exemple. Les études prouvent que ça, c'est un trait vers lequel on est plus naturellement attiré et qui fait davantage l'unanimité. Quand je parle que la beauté intérieure, c'est pas nécessairement vrai que c'est tout ce qui compte. Là, je m'arrête pas à dire qu'il faut absolument être un pétard ou vouloir être un pétard comme but de vie ou comme seul critère suffisant, là. Mais n'en demeure pas moins que trouver beau quelque chose à notre façon, c'est quand même important et intéressant et primordial. Je pense que c'est un petit mensonge cute que de penser qu'on regarde juste l'intérieur, du moins actuellement dans nos vies. Quand on regarde quelqu'un, faut trouver un petit quelque chose, là, que ce soit la manière où, que la personne parle, la manière dont elle marche, sa façon de regarder les choses elle-même. Et ça, c'est le charisme. Et c'est beau. Et on va vers ce qu'on trouve beau. La beauté reste quelque chose d'attractif, et ça, c'est un fait. Mais est-ce que la beauté, c'est que positif? Je pense pas. Et aujourd'hui, on aborde la beauté physique sous un angle qui m'interpelle et qui me questionne, soit les difficultés qu'on vit quand on a une beauté physique qui est généralisée. Et on parle souvent des bienfaits d'être beau, hein, il y en a beaucoup. Mais est-ce que c'est la seule réalité que les gens beaux vivent? Moi, je pense pas. Et on parle également souvent du « body shaming », une expression anglaise qui aborde la tendance de couvrir de honte des corps qui ne correspondent pas aux standards de beauté. Et la vérité, c'est que ça s'adresse surtout aux femmes qui sont rondes, qui ont des courbes. Et je dis aux femmes parce que ça s'adresse surtout aux femmes tout court, en fait. Mais on parle rarement du body shaming ou des critiques et des difficultés que les personnes belles vivent. Et ça, ça m'a énormément attirée moi-même dans les derniers temps comme sujet. C'est quoi être beau? Qu'est-ce que ça implique? Le positif, mais aussi le plus difficile, le négatif à avoir une beauté physique claire. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui et on en parle avec notre invitée cette semaine, une femme qui, à travers tous ses accomplissements, ses talents, ses efforts, a su être reconnue toute sa vie principalement pour sa beauté et elle vient nous parler des conséquences de ça sur sa vie personnelle et professionnelle. On accueille Mme Danielle Ouimet. Bienvenue à Emmanuel, avec un M et deux L.
Dans les vitrines, les magazines, maudit que le monde est beau. Dans les annonces de Roberto, Colin, que le monde est beau. Quand il va chercher son Oscar, maudit que le monde est beau. Dans un décapotable de char, les pierres se trouvent la nuit. Appelle la bicyclette tous les samedis. Des jeans neufs et des faux trous, maudit que le monde est beau. Pochette, café, bio, tisane, bio, Colin, que le monde est beau. En pleine campagne électorale, et que le monde est donc beau. À l'hôtel de ville de Montréal, les pierres se trouvent là. À fin de la bicyclette, tous les samedis. Oh, 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 yeah. Oh, la pierrette qui pédale. We'll be right back. quand les gars de la banlieue arrivent déguisés en cowboy. Caroline le monde est beau, quand c'est Jeannette qui veut savoir. On dit que le monde est beau quand ils sont bronzés en hiver. Mais Pierre se tremble, elle fait de la bicyclette.
La beauté en toute chose. La beauté à grande échelle, et je l'ai nommée, la beauté nous attire comme un aimant, puis on passe nos vies à créer du beau. On décore notre maison à notre goût, nos plates-bandes dehors pour que ce soit visuellement attrayant, intéressant, chaleureux. On aime les peintures qui sont jolies, les beaux vêtements, la musique qui est belle à nos oreilles. Puis même s'il n'y a rien de plus subjectif que la beauté, on finit tous par tendre à en créer le plus qu'on peut autour de nous. Et la beauté physique ne fait pas exception à la règle. On parle souvent de ces gens qui se trouvent pas beaux, hein, et il y a des grandes souffrances et des grandes difficultés qui sont reliées à vivre en se trouvant laid. T'sais, imaginez sincèrement, et ça c'est une perception, mais je pense que plusieurs vont se sentir interpellés quand je dis ça. On parle de se trouver pas attirant ou laid et non pas l'être, que la nuance soit très claire et soulignée. Parce que comme je l'ai dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde et ça rend la beauté très subjective, oui, mais également ce qu'on trouve beau, c'est finalement rien de plus qu'un goût personnel, qu'une opinion, une impression, mais c'est très, très loin de la vérité. Et je crois sincèrement qu'il n'y a rien de laid sur Terre, sauf des fusils, mettons. Moi, personnellement, je trouve pas ça beau. Et la beauté physique fait pas exception à ça. On est toujours beau aux yeux de quelqu'un. Mais malheureusement, il arrive que ce ne soit pas à nos propres yeux. Et ça, c'est quelque chose qui a été largement abordé et avec raison, considérant les conséquences négatives sur l'estime de soi, sur l'amour de soi directement que ça implique. Mais on parle rarement de ces gens qui sont beaux, qui sont très beaux, physiquement, indéniablement. Genre un pourcentage très élevé, voire la quasi-totalité des gens vont s'entendre pour dire « oui, cette personne-là, elle est belle ». Donc oui, parlons standard de beauté, d'apparence physique, et oui, on généralise, et c'est pas tout le monde qui va se reconnaître, mais c'est un angle bien précis qui mérite, je crois, d'être abordé, et même s'il existe différentes attitudes face aux belles personnes, encore une trop grande majorité vont pouvoir peut-être se retrouver quelque part dans les propos qui vont suivre. Cet angle-là, il était important pour moi parce qu'on en parle rarement et qu'on ne mesure pas toujours l'ampleur de ce qui s'y cache. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne s'y intéresse pas. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'au-delà de souvent pas s'intéresser aux conséquences négatives d'être beau, on ne permet pas aux belles personnes de chialer parce qu'elles ont tout ce qu'elles veulent et elles ont tout pour elles. Ça, c'est un peu une partie du problème majeur d'être beau. Parle pas, t'as tout pour toi. T'sais, c'est comme, ouch. La beauté physique, oui, on y pense. Et on en parle, et on parle souvent de la beauté comme un atout indéniable. On le sait, à compétence égale, dans une entrevue, il y a une personne belle physiquement va nécessairement avoir l'emploi avant quelqu'un de moins attirant. Ça, c'est prouvé. Faut le faire, quand même. Et quand j'étais jeune, pas besoin de vous dire que le physique, c'était quelque chose qui me préoccupait énormément. Enfant, je voyais bien que j'étais différente physiquement parce que je suis née en fauteuil roulant, puis ça ne me prenait pas un large bagage en perspicacité pour m'en rendre compte, là. J'étais souvent complexée. J'étais boulotte, et là, je vous parle de l'âge entre 8 et 13 ans environ. Et je me comparais et j'étais souvent triste. Finalement, j'étais comme toutes les autres filles de mon âge et j'ai traversé l'adolescence avec autant de modèles difficiles à atteindre, comme chaque génération a eu à le faire. D'ailleurs, simplement qu'aujourd'hui, on ajoute un peu Photoshop à l'équation. Et c'est seulement vers l'âge de 18 ans que je me suis trouvée belle pour vrai. Parce que j'aimais qui j'étais maintenant, en dedans comme en dehors. Je me regardais dans le miroir et je voyais plus que mon corps. J'allais plus loin que ce que je voyais dans le miroir. Mais quand je regardais mes traits dans le miroir, je les trouvais beaux aussi, pour la première fois en fait. Ma façon de définir la beauté avait changé et j'étais capable pour la première fois de me trouver belle de partout. Il faut comprendre ici que même si la beauté intérieure avait pris sa juste place, là, n'en demeure pas moins que je me trouvais belle en dedans, mais aussi en dehors. Parce que le niveau d'hypocrisie élevé concernant la beauté intérieure, j'en ai parlé, et ça me fait penser au test des magazines. J'avais une discussion il y a quelques années avec des amis autour d'une table sur ce concept-là. On parlait des magazines et à quel point on se fait laver le cerveau par une beauté tout d'abord fausse, mais extrêmement abondante également. Et mon ami E avait dit que ça serait bien de voir des gens ordinaires dans ces magazines-là. Des filles, des gars qui sont communs pour une fois. Et malheureusement, j'avais dû nommer mon point de vue qui est le suivant. Moi, je pense que malgré ces belles paroles, c'est pas nécessairement ce qu'on veut voir. Moi, je pense qu'on se plaît à voir ces grandes beautés-là dans les magazines et la preuve a été faite. En fait, on a fait une étude justement il y a quelques années où dans un magazine, on avait décidé de mettre des gens ordinaires. Et là, je mets le mot « ordinaire » entre guillemets parce que j'espère que vous comprendrez que je parle d'un phénomène social et que des gens ordinaire, ça n'existe pas pour moi. On est tous spéciaux et beaux à notre façon et aussi quétaines que ça puisse paraître, je le pense. Mais n'en demeure pas moins que oui, ces magazines-là avaient fait le test et les ventes étaient en chute libre. Personne n'en voulait. C'était inintéressant. Quel paradoxe, quand même! Pourquoi c'était inintéressant? Parce qu'on aime rêver? Parce qu'on est stimulé quelque part dans notre cerveau à la vue de la beauté ou parce que plus insidieusement, ça nous donne une opportunité, un catharsis à critiquer, à jalouser. Et la jalousie, elle n'est pas si belle. Et je vais probablement en parler davantage un jour de la jalousie. Mais sincèrement, voir des belles personnes, c'est à la fois confrontant et aussi très encouragé, désiré, cautionné de notre part. C'est ça la réalité. Être beau physiquement, ça vient avec son lot de problèmes. Beaucoup plus qu'on le pense. J'ai nommé rapidement tout à l'heure le fait que, justement, on permettait pas aux belles personnes de chialer parce qu'elles semblent avoir tout pour elles. C'est vrai, on est comme moins réceptif, moins empathique même avec eux. C'est comme si notre capital de sympathie était inversement proportionnel à la beauté qu'on octroie à quelqu'un. Surtout des inconnus, là. On leur sourit moins. Remarquez, on a souvent moins tendance à sourire de gentillesse, de politesse, je parle pas de crouse ici, là. À sourire, à hocher de la tête, à saluer poliment une personne très belle dans la rue, comparativement à une personne qu'on considère, disons, dans la moyenne. Est-ce que c'est parce qu'on est intimidé? N'en demeure pas moins que les belles personnes, elles le vivent, elles le ressentent. C'est pas le diable que de se trouver beau. Après, ce qu'on en fera, c'est autre chose, là, mais se regarder dans le miroir puis aimer ce qu'on voit, c'est beau. Parce que se trouver beau, ça ne signifie pas devenir hautain, pédant, penser que tout nous est dû, puis j'en passe. Là, je parle souvent des liens erronés qu'on fait dans notre cerveau entre des concepts, des situations qui ne vont pas nécessairement ensemble, et ça, ça en est un. Mais une très belle fille qui se trouve belle, ça passe beaucoup moins bien, sincèrement. C'est comme en plus de notre capital de sympathie, notre capital de tolérance est aussi inversement proportionnel à la beauté qu'on octroie chez une personne. Si on prend quelqu'un comme moi, qui est en fauteuil roulant, enfin, on souhaite, on espère de toutes nos forces que je me trouve belle parce que c'est sain. Est-ce qu'on a le même souhait pour les personnes exceptionnellement belles? On dirait que j'ai un doute. Et parlant de doute, on peut même douter de leur intelligence. On parle de tolérance, on va être beaucoup moins tolérant, je pense, envers une très, très belle personne qui dit quelque chose de complètement niaiseux, qui sonne con à nos oreilles. Je pense qu'elle a moins droit à l'erreur, parce qu'on les juge plus vite. On les juge et on les juge sévèrement. On a cet archétype, ce préjugé envers les belles personnes, et sans dire que ça vient de manière automatique et constamment, c'est plus à même d'arriver, hein, de croire que ces personnes-là sont plus superficielles, mesquines ou hypocrites. C'est comme si on était plus sur nos gardes, plus menacés. On fait moins confiance. Notre capital de confiance est inversement proportionnel à la beauté qu'on octroie à quelqu'un. On s'intéresse moins à ce qu'elle dit, ce qu'elle accomplit, ses rêves, et par-dessus tout, on oublie que ces personnes-là ont aussi des problèmes, des douleurs, et malheureusement, je me questionne si elles ont droit à la même écoute, la même disponibilité que le reste du monde. Oui, je pense que notre capital d'intérêt et de compassion est aussi moindre avec elles. Et ça, c'est sans parler de la compétition qui vient avec. Comment elles la vivent, ces personnes-là? Parce que si je reprends l'exemple de l'entrevue d'embauche dont j'ai parlé au début de l'émission, oui, à compétence égale, peut-être que la personne va avoir l'emploi, la plus belle personne, avant celui ou celle qui se trouve dans la moyenne, mais après, une fois dans son milieu de travail, comment ça se vit, ce critère de sélection-là? Considérant qu'elle ne l'a pas choisi elle-même, ce critère-là, comment elle fait face au reste, aux collègues qui sont là chaque jour, après avoir été embauchée, tu sais? La vérité, c'est qu'on se met toutes sur notre 36 pour une entrevue. Parce que la beauté physique aussi compte. Elle compte pour tout le monde. Et pour pouvoir bien comprendre la réalité de vivre dans la peau d'une personne, d'une grande beauté, on parle avec Daniel Ouimet dans quelques instants.
J'aime pas les parisiennes, j'aime pas les filles qui s'aiment, celles qui se regardent dans la vitre du métro. J'aime pas les comédiennes, j'aime pas les filles mondaines, j'aime pas celles qui se laissent inviter au resto. J'aime pas les filles trop belles, les petites filles modèles, t'as peur qu'on te les vole dès que tu tournes le dos. J'aime pas les filles fashion, les fausses Paris Hilton, celles qui se maquillent même pour aller au. Parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches. On se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches. Et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Oh oh, oh. Moi j'aime les moches. Fini la haute gastronomie. J'aime les moches. Moi je veux une boîte de raviolis. Moi j'aime les moches. Parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit. J'aime les moches. J'aime pas les petites bourgeoises qui te rangent dans une case. T'as toujours l'impression de pas être au niveau. J'aime pas le genre de fille qui traîne en boîte de nuit et qui te refile toujours un faux numéro. Moi j'aime les moches, ça me donne un côté tolérant. J'aime les moches, ça me rend plus intelligent. Moi j'aime les moches et les moyennes de temps en temps. Je m'en fous des mannequins à talons. J'aime les moches. Je veux qu'elles s'habillent chez Decathlon. Moi j'aime les moches. Moi j'aime le boudin, j'aime le thon. J'aime les moches. La déco est banale. J'aime les moches. Il fait chaud dans un deux étoiles. Moi j'aime les moches. Faut soigner le mal par le mal. J'aime les moches. Oh oh, oh. Moi j'aime les moches. Y'en a qui aiment les Picasso. J'aime les moches. Je les aime en vrai, pas en tableau. Moi j'aime les moches. J'aime les drons, j'aime les cachots. J'aime les moches.
« Elle a été la première lectrice de nouvelles en Amérique du Nord sur la bande FM, poste qu'elle a occupé pendant 20 ans. Chanteuse, elle a joué la comédie littéralement dans les bye-bye des années 70 aux côtés de Dominique Michel. Elle anime plusieurs shows de variété à la télé comme Blablabla, Les mecs à dames. Elle peint depuis 30 ans également. Sa carrière, c'est 55 ans de télé, 20 ans de radio, 17 films. Mais on se rappelle surtout d'elle comme ayant incarné notre Valérie en ce rôle-là dans les années 60, qui a changé sa vie, mais qui a pris aussi beaucoup de place parce que sa beauté a été mise en avant-plan toute sa vie. Et cette femme-là, eh bien, elle a un nom bien à elle. Elle a des idées, des ambitions et des opinions également. Elle s'appelle Danielle Ouimet. Bonjour, Madame Ouimet.
Bonjour, merci de cette description. C'est génial.
Quand même, hein? On a fait votre biographie en une minute.
Enfin, bon, bref, c'est vrai, j'ai tout fait ça.
Effectivement, et on a glissé Valérie et je veux parler à Danielle aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez déjà dit, et je vous cite, « J'ai rapidement appris à paraître plutôt qu'être. Mm-hmm. » Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de la phrase « C'est la beauté intérieure qui compte ». Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu hypocrite?
C'est vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai parce que finalement, avec toutes les critiques qui nous arrivent sur la tête régulièrement, personne n'ayant eu le bonheur d'avoir une génétique avantageuse, avec toutes les critiques qui nous tombent sur la tête, si t'es pas capable de si tu te butes à l'idée qu'il faut ne faire que paraître, ben tu t'embarques dans un
si c'est ta seule qualité finalement.
Ben oui, ben c'est ça, si tu t'embarques dans un train qui finira jamais là, il y aura jamais de destination parce qu'il y a autant d'idées préconçues d'ailleurs, préconçues souvent qui vont arriver sur le chemin qu'on est obligé de prendre à un moment donné se faire une limite sur la façon dont on veut que les gens nous voient ou nous perçoivent. Mais bon, on peut pas contrôler le monde non plus. Mm-mm. Alors reste le fait qu'il faut passer à travers et se dire qu'il y a autre chose que cette espèce de critique qui nous revient tout le temps sur la tête, en bien et en mal d'ailleurs, soit ceci dit entre parenthèses.
Oui, parce qu'il y a les deux côtés et on va en parler de ça. D'abord, votre relation avec votre propre beauté, c'est quoi l'évolution? Est-ce que vous étiez vous-même à l'aise dans votre corps en tant qu'adolescente, jeune adulte? Est-ce qu'elle a évolué, cette perception-là, bon, de votre propre beauté?
Écoutez, je pense que c'est une question d'éducation. Ma mère m'a élevée de façon à ce que ça ne soit pas un critère de sélection dans tout ce que les gens, quand les gens m'approchaient, que ce soit un critère de sélection. Bien sûr, j'ai participé à des concours de beauté, mais ça, c'est le travail qui me l'a demandé, qui l'a demandé, il l'a exigé. Mais ma mère n'était pas d'accord pour ce genre d'exhibition, de partir dans des concours de beauté. Ça, elle n'était vraiment pas. Et souvent, elle me disait tout le temps, Danielle, c'est le travail qui va te faire parvenir à ta destination. T'es pas obligé de compter sur ton physique. Et ça, elle me l'a dit souvent, elle me l'a prouvé souvent. Et je dois vous avouer que je n'en ai pas fait de cas. Bon, évidemment, quand est venu le temps de faire Valérie, et surtout à cause de ça, par la suite, l'image a beaucoup bifurqué vers le paraître. Et on m'a surtout et beaucoup approché pour l'espèce d'esthétique que je représentais. J'imagine les critères d'esthétique qui étaient à l'époque, jeune, belle, libre, etc., etc., parce que tout va ensemble. Et puis, c'est drôle, j'ai toujours eu une espèce de forme de recul vis-à-vis ça. Parce que tellement, je m'excuse du terme, mais c'est ça, brainwashing, elle dit qu'il fallait que j'y arrive par plutôt le travail. J'ai jamais compté sur mon physique pour obtenir certains avantages. Cependant, la nature de l'humain étant ce qu'elle est, quand il s'agissait d'amour, par contre, et de rencontres amoureuses, ben là, c'était différent. Là, effectivement, je faisais attention. Est-ce que je suis plus belle que l'autre? Est-ce que je suis plus fine que l'autre? Et ça, c'est le physique reprenait le dessus. Je suis une femme coquette parce que c'est un métier qui l'exige, mais règle générale, je sais pas ma tu sais, les gens me reprochent beaucoup d'avoir pris du poids. Ben oui, mais il y a l'âge, il y a le temps, puis il y a aussi des problèmes pas nécessairement glandulaires, mais d'opérations qui me sont arrivées qui a fait que, et on dirait qu'on m'a jugé différemment à partir du moment où j'ai changé littéralement, physiquement, de gabarit, devrais-je dire. Et j'ai compris à ce moment-là que j'allais en décevoir quelques-uns. Mais voyez-vous, quelque part, et c'est le prix à payer, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de dire, ben enfin, ils vont arrêter de me regarder, ils vont m'écouter. Et c'est cette éducation que ma mère m'a laissée qui est devenue primordiale pour moi. Alors, vous me demandez si ça a été important. Ben oui, parce que, bien sûr, dans l'évolution des choses, les gens ont ce premier contact télévisuel. Mm-hmm. Mais pour moi, le plus important était celui de m'entendre, de m'écouter, parce que je suis une femme qui a des choses à dire et des choses à faire. Et c'était devenu beaucoup plus important que le physique.
Mais vous avez nommé quelque chose d'extrêmement important. Vous vous êtes nommée ou vous êtes qualifiée de quelqu'un de femme coquette. Et... Oui. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme extrêmement belle, vous aviez moins le droit de vous trouver belle qu'autrement? Parce qu'on connaît l'importance de se trouver beau pour l'estime de soi, je veux dire. C'est sain se trouver beau. Est-ce que vous avez l'impression que vous aviez moins le droit ou que ça passait moins bien?
Ben, c'est-à-dire que, vous savez, j'ai pas choisi un métier facile. C'est un métier où on te demande tout le temps d'être à la... Vous savez, moi, je suis renversée. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappée dans la vie. Une fois, je partais à la... Ah non, trois. Je vais vous donner trois exemples. Je vais à la chasse un jour avec mon père, et puis à un moment donné, on revient à la même place où on a mangé à un moment donné dans un restaurant. La serveuse ne me reconnaît pas, puis dit à un moment donné, « Hey, la semaine dernière, il y a Danielle Ouimet qui est passée. Il paraît qu'elle était habillée comme la chienne à Jacques. »
Oh non!
Alors, j'ai dit, « Mais coudonc! Est-ce qu'il aurait fallu que je porte la robe de bal? Je m'en vais à chasse, là. Bon. »
Puis les gens s'attendaient de vous à ce que vous soyez toujours clean cut, excusez-moi l'expression, là, mais c'est ça. Là.
Exactement. Alors, finalement, ben, écoutez, puis la deuxième fois, je suis en moto. Il y a une madame qui vient vers moi et qui me dit, « Mais vous êtes bien plus belle à la télévision. »
Oh non!
Puis moi, j'ai dit, « Mais madame, vous êtes probablement trompée. » J'ai dit, « Pour moi, elle est nerveuse, elle veut me parler. » Elle me dit, « Non, pas à toi. » Elle dit, « Je sais bien ce que je vous ai dit. »
Oh non!
Bien plus belle à la télévision qu'en personne.
Merci
Mes amis
beaucoup.
Sont partis, écoutez, sont partis de tous les bords. Et la troisième affaire, c'est que sur Facebook, vous savez comment c'est délicat.
Oui.
Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai rencontré Danielle Ouimet parce qu'on a, je portais des leggings. Ben oui, mais je sortais de...
Oh non!
Je sortais de faire ma gymnastique. Il fallait quand même pas que je me change pour faire plaisir à monsieur quand je fais mes commissions.
Mais vous nommez quelque chose d'extrêmement important. On va aller faire une pause et je veux absolument vous poser une question extrêmement importante avec ce que vous venez de dire, Mme Ouimet, par rapport au capital d'empathie. On revient.
Okay.
Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le canal M et on parle d'apparence physique, surtout de beauté cette semaine avec Danielle Ouimet. On continue d'en parler dans quelques instants.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look at guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is you walking back to me? Yes, you walking back to me. Oh, oh, pretty woman.
On est toujours avec Madame Danielle Ouimet. On parle de l'impact d'être une très belle personne, d'avoir une belle apparence physique dans la vie. Et là, vous avez nommé des événements dans votre vie qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez reçu des commentaires? Je veux dire, on vous dit que vous êtes belle, mais on s'attend à ce que vous soyez belle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un capital d'empathie inversement proportionnel à la beauté de la personne à qui on s'adresse?
Oui, effectivement, on juge énormément là-dessus. Écoutez, même moi, quand une personne dit une niaiserie, si elle est belle, malheureusement, je dis, ben là, naturellement, je dis, ah ben, tiens, gardons ça, belle, mais vide.
Mais pas, moi, c'est ça, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Non, mais c'est vrai, on est moins tolérant aussi, vous
Exactement.
L'avez nommé.
Absolument moins tolérant. Alors, j'avais un amoureux à un moment donné qui me disait tout le temps, Daniel, la beauté, ça se mange pas en salade, en voulant dire que ça avait pas une puissance aussi importante que des choses essentielles dans la vie.
Mm-hmm.
Mais donc c'était pas que c'était pas essentiel, mais que c'était pas primordial d'avoir ça avait pas un côté pratique.
Mm-hmm.
Et je dois avouer que le jugement qu'on porte sur certaines personnes me fait mal parfois, parce que la beauté, on n'y peut rien. Tu l'as ou tu ne l'as pas.
Exactement. C'est pas comme si on pouvait l'enlever du chemin. Tu
sais, quand ils me disent, oh, t'es bien trop belle, naturellement, ben, écoutez, je m'excuse, la prochaine fois, je vais m'égratigner, puis je vais me traîner sur le trottoir, comme ça, ben, peut-être que j'aurai plus de chance, c'est
mm-hmm.
clair, si je ne suis pas ce que vous pensez que je devrais être. Il y a des côtés qui sont très, très, très désagréables à toujours être jugé par son apparence physique. Il y a un côté réducteur, je pense.
Parce que vous êtes beaucoup plus qu'un visage. Je veux dire, vous avez des idées, vous êtes une personne intelligente qui avait des opinions. Vous avez même dit que si vous gagniez 50 millions de dollars, vous feriez une émission qui vous ressemblerait, que vous voudriez absolument faire pour vous.
Exact.
Vous avez des choses à proposer. Ça aurait été quoi, cette émission-là, d'ailleurs?
Oh, mon Dieu!
Moi, c'était ma question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire.
Ah, ben écoutez, j'en ai à peu près 50 à vous préférer.
Un million par émission, c'est correct.
Non, mais j'aime beaucoup aller les échanges d'idées. Mm-hmm. J'aime le vécu des gens. J'adore savoir pourquoi telle personne a posé tel geste, a fait tel mouvement, pourquoi il a parti...
L'intention, tout ce qu'on voit pas, finalement.
Exactement, voilà, exactement. Mm. Ça me fascine de voir d'où vient l'imaginaire de chacun.
Mm.
Parce que on est tous différents, qu'on le veuille ou pas. Et même, j'ai vu des gens mais beaux, très laids, mais beaux. Parce qu'ils étaient, par leur façon d'être, absolument magnifiques. Vous savez, c'est drôle à dire, mais il y a ce côté-là qui n'est pas privilégié souvent. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Tu sais, il y en a qui se trouvent très laids puis qui perdent tout pouvoir ou toute confiance en eux à cause de ça,
mm-hmm.
alors qu'au contraire, s'ils avaient à pousser davantage leur intériorité, ils y arriveraient puis on les trouverait magnifiques. Mais de toute façon, quelque part, ils sont tous magnifiques.
Mais effectivement, donc, à quelque part, puis il y a le charisme, et moi je dis depuis le début que c'est la beauté dans les yeux de celui qui regarde, qu'on pose les yeux sur quelqu'un et qu'on dépasse.
Encore une fois, ça tu l'as ou tu l'as pas, hein, le charisme, c'est mm-hmm. ça se fait, je pense, beaucoup, beaucoup en regardant les autres. Parce que quand tu réussis à être plein du savoir des autres, enfin, tous les matins, si j'ai rien appris dans la journée, j'ai perdu ma journée.
Mm.
J'ai perdu ma journée. Puis je pense que la force, c'est que on peut m'approcher n'importe quand. Et je pense que je ne vais jamais décevoir les gens avec les discussions que je peux leur apporter. Parce que je me fais un plaisir d'apprendre de tout le monde. Je ne suis rien s'il n'y a pas les autres autour de moi. Et de distribuer ce que j'ai appris. Mais bon, je le fais sans naturellement, sans dire, écoutez-moi, là, je possède la vérité. Apprendre, ça va jusqu'à la tombe. Ça va jusqu'à la tombe. Et je trouve que la plus belle beauté que tu puisses avoir, c'est de pouvoir parler des autres. C'est une des choses... Enfin, pardon, j'ai un gros rhume, puis ça revient des fois. Ça fait partie de la communication qui est la raison pour... C'est vrai que si dernièrement, à l'âge que j'ai, on se pose bien des questions sur soi à la fin, puis on se dit où est-ce que je suis rendue. Mm-hmm. Et une des choses qui m'a surprise dernièrement, c'est de dire si tu avais à te définir c'est quoi pour toi le bonheur, ben ce serait la communication. Mm-hmm. Je n'ai vécu toute ma vie que pour la communication. C'est assez bizarre. Tu sais, être comédienne, c'est de la communication. Être animatrice, c'est de la communication. Être peintre, c'est communiquer l'intériorité. Mm-hmm. Être auteur, comme je fais des livres, j'en fais mon quatrième, c'est encore de la communication. Et je pense que c'est ça. Je ne suis que communication, je suis née pour ça. Et c'est magnifique. Je trouve que j'ai une vie pleine à cause de ça. Pas à cause de mon physique, à cause de ce que j'ai pu apprendre, à cause de ce que j'ai pu partager. C'est très important.
Et ça, c'est sans compter les livres que vous avez écrits, ou du moins le livre que vous avez écrit, que vous voulez en réécrire d'autres.
Oui, je suis en train d'écrire le quatrième. Il est assez amusant, d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que maintenant, les gens veulent rire. La vie est dure.
On a besoin d'humour un peu.
Et on a besoin d'humour. Et mon prochain livre, ce sera toutes les choses bizarres qui me sont arrivées dans ma vie. Et croyez-moi, quand je les raconte, des fois, les gens sont sidérés. Mm-hmm. J'ai une drôle de vie, effectivement.
J'aimerais savoir, aujourd'hui, la femme que vous êtes, dans vos peintures, dans votre écriture, oui, mais dans votre vie personnelle, dans vos relations.
Dans mon âge.
Dans votre âge, dans votre évolution. Comment vous réagissez à votre beauté ou à l'impact que la beauté a eu dans votre vie? Est-ce que vous essayez encore de vous prouver davantage ou est-ce que vous essayez de tout faire pour pas avoir affaire à cette beauté-là? Comment elle agit?
Non, ça fait plus partie de... Encore une fois, ça fait pas encore partie de mes critères.
Vous vous sentez pas du tout en réaction avec...
Quand on me le dit, je suis quasiment gênée. Mm. Je suis quasiment gênée parce que ça... J'ai pas envie de dire ouais, mais ça veut dire quoi ça? Ben là, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie d'entendre la réponse. Mm-hmm, mm-hmm. J'ai pas envie d'entendre la réponse. Je veux d'autant plus qu'avec l'âge, bien sûr. Ah oui, une chose que je voulais souligner. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, ce sont les hommes qui se sont approchés. Bon, ben, c'est sûr que j'ai fait un film qui a provoqué, qui a fait que les hommes se sont approchés davantage que les femmes et que les femmes, à partir de ce moment-là, et ça, c'est très important.
Exactement.
Les femmes m'ont rejetée, mais terriblement. Oui. Les femmes m'ont attaquée. J'ai déjà vu faire des émissions où on était au bord d'une piscine et les gens me jetaient dans la piscine. Une fille me jetait dans la piscine par jalousie. Parce que, bon, on s'occupait plus de moi qu'elle. Ben oui, mais ça, c'est pas de ma faute.
Vous faire des amitiés, ça devait être un défi, là.
En plus de ça, parce que souvent, je fais des choses circonstancielles. Je vous raconte une chose circonstancielle, mais ces femmes-là qui approchaient mes boyfriends, mes amoureux, me disaient, mais pourquoi elle, pas moi? Puis, bon, j'avais des problèmes aussi là-dessus. Mm-hmm. J'ai eu des problèmes sur les... On disait que j'avais mon travail uniquement parce que j'avais couché avec tout le monde, ce qui est absolument faux parce que j'en faisais... C'était pour moi un critère très important de ne pas avoir d'aventure avec ceux avec qui je travaillais parce que je voulais rester et je savais fort bien que pour rester, il ne fallait pas justement donner l'occasion aux gens de dire ben, elle a une raison de rester. J'ai travaillé très, très fort à essayer de changer l'image et ce n'est qu'en vieillissant, en devenant plus humaine, plus vieillissante que les femmes ont commencé à dire, ben coudon, elle a peut-être des affaires qu'elle a vécues comme nous.
Des douleurs, des rêves, effectivement.
Exactement. Des peines comme nous. Et le jour où j'ai été très, très, très à l'écoute des femmes et que je leur ai parlé un langage qu'elles comprenaient, là, je me suis fait des amitiés très importantes.
Madame Ouimet, merci infiniment de nous sensibiliser à la réalité, d'avoir une magnifique apparence physique. Moi, ça me parle beaucoup et j'espère qu'on allumera quelques lumières. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Très, très, très gentil. Merci. Merci de m'avoir invitée.
Merci à vous.
Fait un cadre flou, tout son visage se détache de loin en loin, mystérieux. Mystérieux. C'est ici que se complique cette histoire fatidique. Le patron vient de passer, il l'a même pas remarqué. Remarqué? Je suis peut-être laide, mais je suis intelligente. Remarqué, dit-elle. Je suis peut-être laide, mais je suis intelligente. Les mariés, comme les films à la télé, sa femme sait pas s'habiller, quadragénaire fatigué, d'ailleurs lui fait pas son âge pendant qu'elle fait le ménage, la vaisselle, le ménage, la vaisselle. Les heures viennent de sonner, elle voit une fille jeune et sexée, au cou du patron jeté, au cou du patron jeté. Les hommes sont toujours pareils, de la fenêtre elle surveille, mais elle ne perd pas courage, de cette comme il passe la télé. Comme la vie est laide, laide, car je ne suis pas belle, belle, je suis une poubelle.
Entendre Jean Leloup dans sa chanson « La vie est laide ». Il nous raconte l'histoire d'une fille qui n'est pas belle et qui défend le fait qu'elle est quand même intelligente. Et si les filles très, très belles, si les gars très, très beaux avaient aussi envie de crier « Je suis peut-être belle, mais je suis aussi intelligente ». Et c'est ce sur quoi on apporte la lumière aujourd'hui. La beauté physique, elle a des conséquences, mais ce n'est pas tant la beauté elle-même que la relation qu'on entretient avec la beauté physique. En fait, ce n'est pas tant la belle personne que le concept de beauté. Et on peut commencer à changer notre relation avec la beauté physique, notre vision, nos jugements. Parce que oui, c'est ça la mire. C'est plutôt ça le travail, parce qu'on ne peut pas vraiment changer l'apparence physique de quelqu'un, tu sais. Mais on peut toujours travailler sur nous, nos perceptions, parce que cette compétition-là sur la beauté, elle a des conséquences sur tout le monde. Et avant de travailler notre relation avec les belles personnes, commencer par travailler la relation avec la beauté, c'est un premier pas. Et le travail, dans ce cas-là, il est sur soi. Et ça, on n'est pas surpris. Hein? C'est comme toujours la voie empruntée, c'est le travail sur soi, en soi. Parce que c'est bien de se rappeler que quand on se sent beau, quand on se sent belle, on dégage une énergie qui fait que les gens nous trouvent beaux. Considérant que tout ce qui est à l'intérieur de nous se transfère vers l'extérieur, que tout part de soi, l'énergie qu'on va dégager va nécessairement se faire ressentir une fois qu'on est bien dans notre peau et qu'on se trouve beau ou belle. De là l'importance de se trouver beau, de se trouver belle, et c'est malheureusement pas une excuse suffisante que de penser que ce qui nous mène à ne pas nous trouver beau, c'est parce que d'autres seraient plus beaux à côté de nous. Malheureusement, c'est pas de leur faute. Personnellement, moi, à la mi-vingtaine, après une rupture, j'avais arrêté de fumer, puis j'avais bien, bien de la peine. J'avais engraissé à mon plus haut niveau, et il y avait en moi un sentiment de rejet, comme après chaque rupture que tout le monde vit. Et sincèrement, je me trouvais pas belle, et ça se ressentait, parce que je me trouvais pas belle, je me rendais pas compte, mais les épaules, mes épaules étaient plus repliées vers l'avant. Je souriais moins. Je regardais moins les gens dans les yeux. Et quand les gens m'abordaient, j'étais moins ouverte et moins encline à les laisser rentrer en contact avec moi. Et non seulement ça, mais à cause de tout ça, les gens m'abordaient moins aussi. Et c'était pas la faute aux belles personnes qui m'entouraient. Ça partait de moi et de moi toute seule. C'est un travail de soi à soi et de remettre les choses à la bonne place. Ça va nous mener également à changer notre attitude face à la beauté qu'on voit ailleurs. La menace, la compétition, la jalousie, la comparaison, puis tout ce qui vient avec. Parce que si on part en guerre contre la beauté et qu'on y réagit de cette façon-là, celle des autres surtout, comment on pense pouvoir l'atteindre? Comment on pense pouvoir nous-mêmes avoir accès à quelque chose pour laquelle on a de l'aversion, consciemment ou non? C'est complètement illogique et c'est surtout impossible. Donc, travailler notre lien avec la beauté en général, c'est un premier pas et ça va bénéficier à tout le monde, soi-même et les autres. Quand on entre en contact avec la beauté personnifiée par quelqu'un, ça serait le fun de se regarder aller et de voir, d'être à l'affût, dans le fond, des pensées qui nous viennent à l'esprit. Quand on voit une personne qu'on considère belle, qu'est-ce qui remonte? Est-ce que c'est de l'admiration? Du jugement, de l'indifférence, à moins d'être indifférent à la vie elle-même. Là, c'est plutôt rare qu'on soit sans aucune pensée, sans opinion et qu'il ne se passe absolument rien dans notre cerveau à la vue de quelque chose. Et de voir une beauté vivante, homme ou femme, ça ne fait pas exception à ça. Est-ce qu'on sait ce qui nous vient en tête? Une critique, une comparaison? De commencer par se rendre compte de nos pensées, on découvre vite des choses sur nous et c'est important parce que ça touche ceux qu'on regarde, ça touche nous aussi, et ça nous affecte nous d'abord et avant tout. Et c'est aussi intéressant de vérifier la validité des associations de ces pensées-là. Est-ce qu'on est moins tolérant, moins gentil, plus susceptible avec des personnes qu'on considère belles? T'sais, recevoir un commentaire, est-ce qu'on réagit de la même façon au même commentaire selon qui nous le dit, une belle personne ou une personne qu'on considère dans la moyenne? Quand on entre en relation avec une belle personne, est-ce qu'on est gêné, menacé? Est-ce que ça... qu'est-ce que ça représente pour nous, la beauté? C'est ça. Comment on y fait face? Et il y a souvent deux tendances. La première, ça nous concerne nous, et c'est l'idée de diminuer notre propre apparence vis-à-vis cette beauté qu'on voit. Et pas nécessaire que ce soit une personne du même sexe. Ça peut être une personne du sexe opposé également. « Ah, oh, il est tellement beau, il ne pourra jamais s'intéresser à moi. » Ou « Ah, oh, elle est tellement belle, j'ai aucune chance. Elle ne me remarquera même pas. » Premièrement, je dirais qu'on est tous assez grands pour savoir ce qui nous intéresse ou pas dans la vie. Donc, si la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, laissons les gens juger par eux-mêmes si on les intéresse ou pas. Ça serait comme le point 1. C'est un beau lâcher-prise, disons-le comme ça. Et si on se rend compte qu'il y a un problème sur le plan de notre apparence physique, surtout quand on entre en relation avec la beauté des autres, là, est-ce qu'on est capable de nommer des choses qu'on trouve belles chez nous à ce moment-là? Et si on a de la difficulté avec notre apparence physique, de commencer par ce qu'on trouve beau à l'intérieur, nos qualités, nos valeurs, les actions qu'on porte, nos principes, n'importe quoi. C'est une belle façon de commencer à se réconcilier avec la beauté. Et surtout la plus importante, la nôtre, là. Et ensuite, on peut aller vers ce qu'on trouve beau physiquement. Mais ça, c'est habituellement plus dur. Donc, on va commencer par quelque chose en ne se tirant pas dans le pied. Là, on va se donner une chance et on va commencer avec quelque chose de beaucoup plus facile. Ça, c'est la première tendance d'un impact négatif à la vue de la beauté et qui a des conséquences sur nous. La deuxième tendance, c'est le cas où nos pensées à la vue d'une personne avec une apparence physique extrêmement attrayante soient plutôt tournées vers la critique, le préjugé, même la fermeture face à ces personnes-là. Et si c'est le cas, d'essayer la chose suivante en toute conscience peut vraiment ramener une relation d'harmonie avec la beauté et ça ne devient plus un critère d'inclusion ni non plus un critère d'exclusion. Parce que ni l'un ni l'autre est mieux, là. Ça c'est... De se forcer à vouloir connaître la personne, à s'intéresser à elle. Faire l'exercice consciemment. On en a parlé avec Mme Ouimet. se questionner sur ses goûts, ses valeurs, ses rêves. Et ça peut être fait directement avec la personne, mais si c'est plus difficile d'entrer en contact avec eux ou avec elle, on peut même se pratiquer dans notre tête à se faire un portrait imaginaire d'elle et en faire un positif même, de l'imaginer avec des rêves, des belles valeurs, des secrets, un passé, ça humanise. Se pratiquer à changer nos patrons de pensée en ouvrant sur le désir de voir à l'intérieur. Ces personnes-là, ce sont des humains, comme tout le monde. Qu'on peut se demander ce qu'elle vit présentement. Est-ce qu'elle a des soucis, des problèmes, des peurs? Dans la rue, on prend une journée pour saluer juste les belles personnes. Exclusivement, on salue et on sourit que les très, très belles personnes. On va accéder à une attitude de la personne au-delà de son apparence physique. Hein. On donne une chance, on laisse la chance. Et sincèrement, pour avoir été en contact avec la réalité des belles personnes, je suis certaine qu'elle vous en sera très reconnaissante. Posez-lui des questions, écoutez ce qu'elle a à dire, ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à elle, mais aussi à vous-même. Et si jamais vous vous reconnaissez dans absolument aucune attitude qu'on a nommée aujourd'hui, ben, peut-être que ça serait le fun de regarder autour de nous et de commencer à apporter les réflexions dont on a parlé ici ensemble aux gens que ça touche. Ça va être déjà d'un peu répandre de la beauté autour de nous. C'est un début. déjà presque tout pour l'émission sur la beauté physique de cette semaine. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche. Je remercie également Maurice Bolduc à la régie et Mathieu Tessier au montage. Sans oublier notre invité cette semaine, Daniel Ouimet d'ailleurs. Son livre autobiographique « Si c'était à refaire » est disponible dans toutes les librairies. Je vais toujours encourager à voir au-delà du corps, c'est voir la beauté de la personne à l'intérieur. Et même si l'expression « c'est la beauté intérieure qui compte » reste un peu hypocrite aujourd'hui, moi je pense encore. Et je crois surtout encore au jour où ce sera la vérité. En attendant, j'espère que vous vous trouvez beau. Parce que vous l'êtes. Bonne semaine.